Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Tu as été récemment au restaurant de l'ITHQ avec Karine Beauchamp.
Ah, oui, exact. Ah, oui, ouais, c'était exceptionnel. En fait, là, on a eu la chance d'avoir des cueilleurs qui ont cueilli toutes sortes de produits de la forêt pour les mettre de l'avant. Puis, on a conjointement, Karine et moi, on a fait un menu avec ces beaux produits.
C'est quoi ton processus de création? Est-ce que c'est quelque chose qui te vient très vite ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles beaucoup? Ça se passe comment?
Pour l'auberge?
En général.
Pour l'auberge, c'est un mix des deux. Des fois, il y a des idées ou des choses que je veux faire qui vont me trotter longtemps dans la tête. Mais ils vont me trotter longtemps dans la tête parce que souvent, je ne sais pas nécessairement comment les exécuter, comment les faire, comment les réaliser. Donc, j'ai une idée, puis ça reste, puis j'y pense. Puis d'autres fois, l'idée revient. Puis des fois, c'est sous un éclair que c'est comme, OK, bon, allez, on le fait, je vais avoir besoin de ça, c'est ça, le procédé, tout ça, la technique, ça va être ça, c'est ça. On l'essaye. Puis souvent, ça fonctionne. Plus souvent qu'autrement. Donc oui, c'est des choses qui se réfléchissent longtemps. Qui se réfléchissent longtemps à l'avance. Même là, j'ai des idées pour le printemps. J'ai juste pas les produits.
Ouais, ça, c'est la période la plus dure en ce moment.
C'est
hein,
ça. C'est... Donc, je prends beaucoup de notes, tout ça. Puis il y a aussi, faut pas oublier que nous, c'est un menu 8 services. Donc dans le 8 services, il doit avoir une cohérence. Donc des fois, c'est bien d'avoir une idée d'un plat et tout ça, mais ce qui va fitter avec les 7 autres plats, dans cette cohérence-là, il va être placé où, aussi par rapport à l'accord avec les vins. Donc il y a une structure. Donc arriver avec un menu cohérent, je trouve que des fois, c'est ça le plus difficile dans un menu dégustation.
Donc la cohérence, c'est à 4 que vous l'avez décidé, c'est toi tout seul, c'est avec le sommelier?
C'est beaucoup avec le sommelier, c'est beaucoup avec le sommelier, c'est donc dans les discussions, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui s'est fait avec l'expérience. Tu sais, dans l'exécution du 8 services, il y a vraiment il doit avoir un fil conducteur, il doit avoir quelque chose qui te guide dans ton expérience. Donc, voilà, ouais.
Mais on sent vraiment ta vision et la patte de ta cuisine dans le menu, là, parce que c'était, comme je disais, là, t'avais un plat d'influence italienne, c'était un risotto fait avec des graines de tournesol. Mm-hmm. T'avais un plat d'influence japonaise, c'était de la courge avec un dashi, avec des crevettes de matin. Un plat incroyable.
J'ai cru qu'il allait pleurer, vous le voyez pas.
J'ai la larme à l'œil juste dans le souvenir. T'avais un vol au vent un peu revisité d'influence française, j'imagine. T'avais un peanut butter and jam américain. T'avais le cerf qui était présenté sous forme de fleurs avec des pétales plutôt nord de l'Europe. Mais donc tous les plats avaient ta pâte et c'était extrêmement clair que ça venait suivre un fil. C'était vraiment extrêmement bien maîtrisé et c'est impressionnant de voir ça à 31 ans.
Alors, imaginons, 31 ans, je savais pas quoi faire dans la vie. Mais imaginons que, et même, je sais pas ce que vous entendez par fil conducteur. C'est quoi là, dans ce menu-là, c'est quoi le fil conducteur?
Ça dépend des menus. Okay. Présentement, avec le menu d'hiver, on est sur quelque chose d'un peu plus réconfortant. Donc, présentement, l'automne et l'hiver, on est beaucoup sur le réconfort et on veut que les plats qui aient une succession, qui fait du sens, mais qui soient aussi tous dans le réconfort, t'as le goût d'être sur le bord d'un foyer. C'est des choses que t'as envie de manger à ce moment-là. Puis c'est beaucoup d'être dans le moment. De vivre le moment. Et avec le menu d'hiver, ça l'est présentement. On est beaucoup sur les légumes racines, évidemment, le navet, les bouillons, les longs mijotés, les sauces umami. On est sur cette sur ça en ce moment, tout en ayant avec une signature un peu artistique. Là, présentement, je suis beaucoup dans les fleurs, dans la représentation très ronde, très florale, très pour donner le goût aussi des fois de sortir de ce moment-là, de se projeter un peu au printemps. Mais visuellement et non gustativement. Gustativement, on reste dans un cocon.
Alors, encore, c'était la discussion que j'ai eue parce que j'étais à ton resto, c'était pour les 40 ans d'un ami proche. Salut Adrien. Il m'a dit, c'est quoi ton plat préféré? Et j'ai pas su choisir entre la courge et l'ombre le chevalier qui était capoté.
Deuxième larme.
Non, mais j'adore le poisson, j'en prends à chaque fois que c'est disponible. Là, c'était de l'ombre le chevalier, c'était fondant. Je pensais qu'il était cuit sous vide, mais non, tu m'as dit que c'était genre juste cuit au four. Il me dit, non, c'est cuit au four, genre,
c'est ouais, naturel.
Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus?
Ouais, il cuit. L'ombre, c'est tellement c'est tellement fragile dans un sens. Donc, il est fait sur. Je peux donner tous les secrets. Il est fait un peu en mode.
Tu enregistres bien.
Donc, juste un peu comme un gravlax, c'est le sucre, juste seulement pendant une heure. Donc, ça va venir un peu refermer.
Là, tu le mines.
Ouais.
Tu le fais reposer comme ça, l'air libre.
Saumure à sec, 50-50, c'est le sucre. Puis on le rince après, on le laisse sécher au frigo, ensuite de ça, sur une grille, pendant toute la nuit. Puis au moment du service, on le sort, on le portionne, et on vient le recouvrir d'un petit peu d'huile. Puis on
l'envoie. Huile neutre
Huile neutre. Okay. Huile neutre, ça peut être aussi une huile qui peut être aromatisée, ça fonctionnerait très bien. Comme une huile de baie de Genève, par exemple. Mais je l'envoie au four, mais le minimum que tu peux mettre ton four. Donc nous, je crois que c'est 60 degrés, le four est à 60-70 degrés, puis je le laisse là. Il n'y a pas de temps vraiment, parce que le pavé peut être... Donc faut vraiment...
Ça, tu le mets au début du service?
Je le mets, je te dirais, là, 20-30 minutes avant le service.
Okay.
Avant le pick-up, dans le sens, avant que la personne le mange.
Donc okay. Elle l'a commandé, tu
l'as commandé.
Limite, tu le mets juste monté à température, quoi.
Exact, donc je le mets... Puis ensuite de ça, j'ouvre le four, puis je le vérifie beaucoup parce que d'un poisson à l'autre, déjà, il ne cuit pas de la même manière. C'est pas la même grosseur, tout ça. Donc, il faut vraiment beaucoup le vérifier, donc en le touchant, pour s'assurer d'avoir vraiment la texture qu'on souhaite, la texture que tu as eue de cette cuisson parfaite. Même si on met... C'est ça que j'expliquais beaucoup avec le cuisinier qui était à ce poste-là. Il dit, t'as beau mettre des timers, des fois, ça va prendre le double du temps, puis d'autres fois, ça va en prendre beaucoup moins. C'est vraiment une question de ressenti. Ton four aussi est pas, on a des vieux fours, là, c'est inconstant.
Ouais, donc, tu ouvres les portes, c'est plus
c'est
pareil.
C'est ça, quoi. Exact. Surtout à cette température-là que tu dois comme un peu maintenir. Donc, c'est vraiment d'avoir une relation avec ton poisson, d'y toucher. OK. Bon. Parfait. OK. Là, est-ce que tu penses que, une minute de plus. Le cas d'un filet, voilà. Puis ensuite de ça, tu le prends, la peau s'enlève comme... c'est tellement satisfaisant, tu enlèves la peau, tu la prends dans tes doigts, ça s'enlève comme ça. Ouf. Puis là, tu sais que la cuisson, elle est parfaite.
Ah, merci, c'était...
un grand secret.
Un grand secret, bravo.
J'ai posé la question depuis des mois, Eric. Je sais, il va pouvoir dormir.
J'essayais chez moi, ça marchait pas.
Puis l'assaisonnement, t'as plus besoin de rien à rajouter parce que ton sel et ton sucre que t'as mis au départ, ce que ton poisson avait besoin de prendre en termes de sel, il l'a pris. Puis voilà.
Bon, question, là je vais un peu plus dans le détail, mais le sel et le sucre, c'est pas celui que j'achète à Provigo, je suppose.
Le sucre peut-être. Le sel, je travaille énormément avec le sel cachère Crystal Diamond, qui est. Je suis incapable de travailler avec d'autres sels. c'est mon sel de prédilection. Même dans les quand je retombe avec du sel normal entre guillemets on dirait que je ne sais plus comment saler les choses. Mais dans mes dosages, ma pincée n'est plus pareille.
Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire pour que c'était autant un attachement à ce sel là
c'est un sel dans lequel il y a eu de l'air qui a été incorporé, donc il est beaucoup plus aérien et il y a un pouvoir salant qui est beaucoup moins agressif que le sel iodé ou le sel clic, tu sais, le sel qui est en cube. Puis, étant donné qu'il n'y a pas d'iode aussi, on dirait que peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent au palais, mais moi, je le sens qu'il y a une différence beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc, ce palais-là, tu l'avais à la base. Tu dois avoir un palais incroyable, puisque vu ta jeunesse et vu les arômes que tu sers, les plats que tu sers, tu continues à le pratiquer. Tu le pratiques comment ?
Le palais ?
Oui. Tu vois, cette différence de sel, c'est quand même quelque chose.
Ben, j'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Peut-être ça m'a aidé.
Ah ouais.
Peut-être ça m'a aidé.
C'est pas un vrai cuisinier.
Ouais, c'est ça. Ben, je suis le genre de cuisinier qui a jamais eu de pause, tu sais, parce que
c'est ça, oui. C'est ça. Ça, c'est ouais. Encore un autre problème, hein, la pause de cuisinier.
Parce que dans toutes les cuisines que j'ai travaillées dans ma vie, ben, le monde sortait prendre leur pause cigarette.
Toi, tu fumes pas. Puis tu fumes pas, c'est ben, pourquoi tu prends une pause?
Mais c'est notre premier podcast, Mathieu a commencé à fumer et donc après il s'est drogué, mais ça c'est son parcours. Mais il a commencé à fumer pour avoir des pauses parce qu'on lui donnait pas de pause parce qu'il fumait pas.
Ouais. Ben, moi, le truc après que j'ai trouvé, c'est que j'allais aux toilettes. Après, je restais aux toilettes là, pendant super longtemps. Là. Je m'assoyais. Je prenais un 15 minutes aux toilettes. Là, le monde le savait.
Ils n'allaient pas derrière toi.
Et puis même, quasiment encore aujourd'hui, là, c'est mon moment. Là, je vais aux toilettes. Là, je suis dans un autre univers.
Moment de méditation.
Ouais, exact.
Ouais. Donc, tu ne le travailles pas particulièrement. C'est juste naturel. Et puis,
En fait, aussi, peut-être un travail aussi maintenant, beaucoup en sommellerie. Avec Étienne, donc on goûte énormément à plein de choses et plein de vins et tout ça. Donc maintenant, j'ai ouvert un nouvel intérêt dans la sommellerie. Essayer de cartographier tout ça, de me faire de ça, puis faire des liens et des ponts avec la cuisine.
Alors, tu parlais tout à l'heure d'un axe dans ton menu, une continuité. Moi, j'adore les desserts. Mm-hmm. Souvent, le dessert vient gâcher ou sort du contexte du menu qu'on nous a proposé avant, très souvent. Comment tu fais pour être sûr que ce dessert que tu vas servir, il est dans la même... Est-ce que c'est toi qui le fais? Comment ça se passe?
C'est moi qui le fais, puis...
Pour l'instant.
Pour l'instant, exact.
Oui, parce qu'on le sait.
Oui, on va la mèche, on va avoir Eric Champagne, un pâtissier exceptionnel pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour qui j'ai eu la chance de travailler, et pour qui maintenant va joindre les troupes à l'auberge.
Wow.
C'est au printemps?
Au printemps, exactement.
Encore une raison de
venir. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant.
Jusqu'à maintenant, je faisais les desserts parce que je prends beaucoup de plaisir à faire les desserts. Puis, donc, le dessert, je tombe dans la même conception que pour n'importe quel autre plat, mais c'est un plat sucré, tout simplement.
OK.
Et c'est le bien quand les desserts sont aussi surprenants que tout le reste, en fait.
Et en ce moment, par exemple, c'est l'hiver, qu'est-ce que tu nous sers comme dessert?
Alors, on est en train de changer, mais j'étais sur j'étais sur une crème prise. Crème prise qui est faite à base des amandes des abricots. Donc, on infuse les amandes des abricots dans notre crème. Puis, on vient la servir avec un petit crumble de sarrasin. Il y a du poivre Sancho que j'ai rapporté du Japon. Le poivre Sancho qui amène un côté très, très agrume, puis même qui a un côté anesthésiant en bouche. C'est vraiment le fun. Et je viens recouvrir d'un granité. Le granité a changé. Entre-temps, au début, on était sur le granité de pommettes sauvages. On n'en a pas fait suffisamment. Maintenant, on est sur une granité d'aronia, une petite baie qu'on a ici au Québec, qui vient de prendre racine, un de mes producteurs. Donc voilà, et avec l'aronia, ça fait quelque chose d'exceptionnel. Tu as l'amande du crémeux, de la crème prise. Et puis, t'as l'aronia, on dirait que t'as l'impression de manger cerise, gâteau forêt noire, pratiquement, ou vanille, cerise, c'est très bon.
Les amandes d'abricot sont un poil plus amères que que les amandes régulières.
Ouais, sont costaudes.
Ouais, elles sont costaudes. Comment tu fais?
Mais ils ont un arôme exceptionnel. C'est une question de dosage.
Après. OK.
C'est une question de dosage.
Et comment tu peux te faire... Oui, je sais, le dessert, excusez-moi,
Émeric. Non, mais j'ai faim maintenant.
Ah oui, mais t'en fais pas, on va manger tout à l'heure. Mais comment tu fais pour te sourcer en noyau d'amandes d'abricot?
Alors au départ, j'avais fait j'avais fait un granité ou du jus d'abricot, soit pour la cuisine ou pour les cocktails. Puis ben je me ramassais avec plein de noyaux, tout ça. Au début on les a conservés, on les a séchés. On est allé les chercher entre deux guenilles et un marteau, bing bing. Puis on a trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit ça serait fou de le refaire, etc. Mais là j'ai trouvé un fournisseur qui s'appelle Quali First, qui est en Ontario je pense. Puis eux, ils en ont des amandes d'abricot. Faut que j'en ai commandé 2 kilos déjà préparés. Mais pour déjà préparée, je veux dire, déjà propre, ah, Mais l'année prochaine, on va se prendre d'avance, puis on va en faire encore beaucoup plus avec les pruneaux, les abricots de Patrick.
Okay. Ah, les pruneaux?
Ouais.
Tu peux faire ça avec les...
Avec les pruneaux aussi.
OK. Ouais. C'est quoi comme... ça doit être un peu différent, le goût?
C'est différent, ouais. C'est différent. C'est drôle parce que c'est le même... les amandes, mais je me souviens, ma grand-mère, par exemple, au Maroc, sur son arbre, sur son pêcher, elle avait une greffe d'un amandier.
Ah oui?
Ouais. Donc, sur le même arbre, t'avais une branche qui faisait des amandes, t'avais l'autre branche qui faisait des pêches. Ouais, ça se ressemble beaucoup.
C'est dur, hein?
Ouais, c'est dur de résister. Là, je pense qu'on n'a pas le choix... d'y aller avec Elise bientôt. On va réserver ça, on va voir quand c'est qu'on est disponible.
Ah, mais printemps, il y a Eric Champagne qui vient.
Ouais.
Intéressant.
On n'aura plus le choix, quoi.
Non. Est-ce qu'il y a un cuisinier, tu te dis, tiens, au Québec, j'aimerais aller goûter ce qu'il fait, j'en ai entendu parler.
Forcément, il y en a. Tu me prends au dépourvu, ah, je vais réfléchir. Oui. Que j'ai pas encore goûté.
Ou alors que tu retournes parce que tu dis tiens,
la cuisine de François-Emmanuel Nichols qui est à Tanière, j'ai pas encore été, puis ça je veux vraiment y aller, je veux vraiment goûter. Parce que tout le reste j'ai goûté.
Tu vas beaucoup au resto?
Bah quand même, c'est ma... Ouais, quand même je cuisine, en fait je cuisine pas à la maison. Quand je suis toujours à l'auberge, je cuisine à l'auberge. Puis quand j'ai un moment off, souvent avec ma copine ou quoi que ce soit, on va essayer des restaurants, on va dans des restaurants, on va voir des amis aussi beaucoup. C'est une famille tout de même.
Donc, quand tu arrives chez toi, tu te fais pas manger?
Quand j'arrive chez moi, je dors. Oui, on est dans le jus, pour de vrai. Puis j'avais réalisé ça la dernière fois. J'étais comme... j'habitais avec Étienne, qui est sommelier aussi, qui était avec nous à l'auberge. Puis on a juste réalisé, on a fait, hey, on a aménagé en avril, puis je pense qu'on n'a jamais fait d'épicerie. On n'a jamais cuisiné à la maison encore. Mais c'est fou, tu sais, puis on est conscient que c'est pas quelque chose qui est durable, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire. On va avoir, tu sais, on est tous conscients que ça prend un équilibre dans nos vies, mais la première année, elle a tellement été...
Ça va vite.
Ça va vite, ça a tellement été intense. Que là.
T'as eu. On parlait quand même, t'as eu une très très belle récompense dans les lauriers de la gastronomie où t'as été
énormément,
nommé révélation de l'année. Mm-hmm. C'est incroyable quoi pour ton premier resto.
Première année, c'est un privilège exceptionnel et puis ça a été. Ils sont arrivés dans un timing un peu comme des sauveteurs, là, tu sais, dans le sens où. On avait fermé l'auberge au mois de mars. On venait d'acquérir. Mm-hmm. Et puis, on avait de l'argent pour faire des rénovations. Donc, on avait tout planifié les rénovations. Tout était cané, tout était beau. On refaisait la cuisine, on refaisait 3 chambres. On refaisait un peu la salle à manger, etc. Donc, on a commencé les rénos. Dans les rénos, il y a toujours mille et un imprévus, mais genre des gros imprévus. Des gros imprévus financiers. Où c'est que là, maintenant, t'es dans un chantier. On est comme, on peut pas reculer, là, tu sais, faut aller de l'avant, là, comme, OK. Fait que là, c'est des 20 000, des 30 000 qui sortent, qui étaient pas supposés sortir. Et puis, on gruge dans notre fonds de roulement. Puis là, on arrive, puis on se dit, au mois de mai, là, on ouvre, puis on n'a plus aucun de fonds. Qu'est-ce qu'on va, comment qu'on va faire? On est, tu sais, il faut que les réservations rentrent, sinon, sinon ben, on va foncer dans un mur, on n'a même pas encore.
Le restaurant était ouvert pendant les travaux ou...
Non, tout était fermé.
Vous étiez fermé, vous n'opériez pas, il y avait zéro rentrée d'argent.
Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait juste que des dépenses. Puis on est tous, on n'a pas énormément d'expérience dans ça. On vivait ça pas mal tous pour la première fois, tu sais. On ouvrait la première de mai. Puis quelques jours après, il y a eu les lauriers. Mais surtout, il y a eu la nomination, déjà une chose. Puis ensuite de ça, il y a eu le lauréat. Puis après ça, le téléphone, puis les réservations, ça s'est mis à booker pour l'été. C'était extraordinaire, la vague... Le timing et tout ça, on s'est dit, waouh, ça nous a... J'en suis extrêmement reconnaissant, puis d'avoir des initiatives de comme ça qui récompensent ou qui mettent en lumière ou qui des petits restaurateurs indépendants comme ça, c'est...
C'est super important, surtout si ça a un impact, comme tu le dis, je pensais pas que ça avait un impact aussi important.
Ouais. Très, un impact très direct, là, je te dirais, ça n'a pas pris de temps que...
Tant mieux.
Puis on savait que c'était... directement corrélé, puis ensuite de ça, t'as un peu une effervescence médiatique, tu sais, où que tout le monde relaie un peu l'information, les médias locaux, les autres médias, OK, tout le monde, puis ton nom sort, puis, ben, des fois, ben, t'accroches monsieur, madame qui, il sait qu'il est en Mauricie telle date, ben, regarde, on va réserver à ce restaurant-là, tu sais. Donc, ouais.
Vos clients, c'est des clients de la région, c'est des clients qui viennent d'ailleurs, de Québec, de Montréal, un peu de tout ça en même temps, qui viennent spécialement.
Maintenant, notre clientèle elle a beaucoup changé par rapport à qu'est-ce qu'elle était avant notre acquisition. Mm-hmm. Donc, avant l'acquisition, on parlait d'un 90%, 95% de la clientèle qui était européenne. Les gens bookaient leur voyage, ça faisait partie de leur loop, ils dormaient à l'auberge. Puis, ils partaient le lendemain visiter le parc de la Mauricie. Et maintenant, aujourd'hui, notre clientèle elle a vraiment changé parce que les gens viennent pour manger. Puis... pour vivre l'expérience de la table, puis ça donne qu'il y a des chambres, puis en plus, Cuba, puis c'est un petit plus, ben ça donne aussi qu'il y a le parc de la Mauricie, ils vont pouvoir y aller. Tandis qu'avant, c'était l'inverse. Et maintenant, la clientèle, elle est très Montréal-Québec, et on est pile entre les deux, notre positionnement est vraiment pile-poil, donc on a beaucoup de clientèle Québec, Montréal. On commence maintenant à défricher un peu l'Ontario, mais ça reste Montréal-Québec. Et les alentours aussi, hein, Trois-Rivières beaucoup, les locaux aussi de Saint-Mathieu, les villages avoisinants.
Écoute, merci beaucoup pour ton... Merci beaucoup pour...
surprenant.
Merci beaucoup, Samy, pour ton temps. Félicitations pour ce magnifique parcours. Merci pour le bon repas que j'ai passé.
Un plaisir.
On invite vraiment aux auditeurs à venir à Saint-Mathieu parce que ça vaut vraiment le déplacement. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @onestdansleljus. Si vous avez le goût de nous soutenir, on est sur Patreon. Et puis...
Je vous donne des nouvelles dès que je vais tester à mon tour. pour professionnalisme, bien sûr.
Oui. L'auberge Saint-Mathieu. On va voir du professionnalisme.
On aime ça, le professionnalisme.
Merci Samy.
Merci à vous. Ciao. Merci de l'invitation.
Ciao.
Merci.